Vous écoutez
RMC. RMC.
Vu le fait que les joueurs soient les 6 meilleurs joueurs, enfin en tout cas les 3 dans le groupe, les 3 joueurs importants soient partis.
Ils avaient besoin d'entendre une nouvelle. Ouais, mais bon, moi, je veux pas revenir sur ce qui s'est passé avant.
Jusqu'à minuit, l'after foot.
Nicolas Jamain.
Bonsoir à toutes et à tous, et oui, l'After est là comme tous les soirs, jusqu'à minuit, l'After, la seule émission de Radio de France, en direct, 7 jours sur 7, casting du soir, bonsoir Lionel, André, Michel, Charbonnier.
Salut Nico, bonsoir à tous.
Ah, j'ai retenu les gars.
Ah bravo.
Bonsoir Roland-Alexandre Courbis.
Salut Nicolas, salut à tous.
Et mon préféré. Bonsoir Willy David-Frédéric Sagnol.
Bonsoir Nico Salajama.
Bravo. Voilà, bon, pour l'histoire, hein, histoire de ne pas exclure nos éditeurs qui n'étaient pas avec nous hier soir, vous nous avez révélé vos deuxièmes prénoms. Ce soir les gars, au programme l'actu foot en France avec le protocole de reprise très précis mis en place par l'association des médecins des clubs de foot professionnels français, document RMC Sport, vous allez voir c'est très intéressant, je vous le détaille dans un instant. Puis on va se balader en Europe ce soir messieurs, l'Italie avec Simone Rovera et pas mal d'infos transferts qui concernent notamment le Paris Saint-Germain, l'Allemagne avec Polo Breitner où on affine les conditions d'une reprise. L'Angleterre avec Julien Laurence. Une date pour la reprise également de la Première Ligue est avancée. Et la suite de notre sondage interne. Quel a été le meilleur joueur de la décennie 2010 selon vous à partir de 23h20? Et tiens, on finira par une petite thématique qu'on aime bien pendant cette période. Messieurs, je vous demanderai quel est selon vous le joueur le plus sous-coté de l'histoire du football que vous avez côtoyé ou non sur un terrain adversaire, coéquipier, peu importe, ou que vous avez simplement observé. Voilà, le décor est planté, c'est parti pour 2 heures, on est ensemble jusqu'à minuit, bien sûr. Mais si on va commencer par une nouvelle positive, elle concerne Junior Sambia, le milieu de terrain de Montpellier, 23 ans, testé positif au Covid-19, hospitalisé depuis mardi soir et placé dans le coma artificiel hier. Eh bien, il n'est désormais plus sous assistance respiratoire et n'est plus dans le coma. Voilà, ça fait du bien de commencer par une bonne nouvelle.
C'est top ça.
Donc a priori le meilleur est à venir pour lui, il respire tout seul. Alors, je vous le disais à l'instant en préambule, en France, un protocole de reprise pour les joueurs se précise, mis en place par l'Association des médecins des clubs français, que Loïc Tanzi, journaliste RMC Sport, s'est procuré. Il se déroulerait en 4 étapes. Étape numéro 1, tests médicaux entre le 11 et le 15 mai. Tests Covid-19, tests biologiques, cardiaques et psychologiques. Étape numéro 2, reprise d'un entraînement individuel pendant 7 jours. Étape numéro 3, reprise d'entraînement par petits groupes sur le modèle allemand de 7 joueurs. Dernière étape, la reprise de l'entraînement collectif le 29 mai. Tous les joueurs, précision importante, devront être testés au moins une fois par semaine avant de pouvoir se rendre à l'entraînement, avec un test obligatoire pour tout le monde avant le premier jour de la reprise. Les joueurs accéderont au centre d'entraînement avec des masques qu'ils retireront pendant la séance. Ils devront respecter, ça aussi c'est important, une distance de 4 mètres entre eux pendant la séance et 2 mètres au repos. Bon, c'est 4 mètres entre eux. Je sais pas les gars, quel intérêt de s'entraîner avec 4 mètres de distance.
Alors, on peut faire des choses quand même ou pas? C'est le retour du 4-3-3 bien écarté, tu sais, avec les latéraux, le truc à l'ancienne, avec les latéraux qui vont marcher sur les lignes. Surtout, vous rapprochez pas, on joue plus serré les mecs. Hein.
Et, ouais. Tu sais qu'il y a certaines équipes, le numéro 9, là, tout seul dans l'axe, avec 20 mètres à droite, 20 mètres à gauche, 20 mètres derrière, tu sais, ils pouvaient avoir le virus. Il pouvait y avoir le virus, il n'y a aucune possibilité qu'il attrape.
Bon, voilà, donc distance à respecter de 4 mètres pendant l'entraînement. Mais les gars, qu'est-ce qu'on peut faire comme exercice pertinent quand on est à 4 mètres d'un coéquipier?
Ah, mais déjà, en ce qui concerne les petits jeux, c'est difficile parce que là, tous tes joueurs vont être bons, il n'y en a pas un qui va perdre le ballon. Donc, c'est sûr que si l'adversaire est à 4 mètres, mais bon, plaisanterie mise à part. Je pense que c'est prendre des précautions et après, bah, il faudra quand même se lâcher. D'après ce que j'ai compris, les étapes que tu nous as données, on se lâchera début juin.
Ouais, début juin.
Les 4 mètres, c'est au départ, c'est pas...
Ah, c'est pendant la séance.
Non, mais non. Pas dans la quatrième phase.
Alors, entraînement collectif. Alors ça, c'est pas précisé, mais a priori, c'est ça a précisé. T'as raison. Tu poses une bonne question, Lionel.
Je pense que ça doit être dès le début, et puis après progressivement, parce que c'est impossible à. Comment tu veux? Ça veut dire que si tu restes à 4 mètres, que les joueurs restent à 4 mètres.
Comment
mais tu peux pas. Mais de toute façon, quand tu vas devoir défendre sur ton attaquant, tes défenseurs, tu dois défendre dans en championnat. Tu le laisses à 4 mètres.
Ouais, non, mais t'as raison, Lionel. À mon avis,
les exercices. Avec ses obligations de 4 mètres, ça ne peut pas être des petits jeux.
Ah ben non, c'est impossible. Ça veut dire que tu vas faire du face-à-face,
un ballon pour deux, un ballon pour trois,
circuits techniques, des animations offensives sans opposition, tu vas faire des choses comme ça.
Tu vas faire ça pendant 15 jours, peut-être 3 semaines, et puis après tu.
L'entraînement collectif le 29 mai.
Bah déjà, tu vas avoir quand même les premières semaines, les 2-3 premières semaines, déjà tu vas avoir une remise à niveau athlétique. Déjà, ça va te prendre beaucoup de séances, ça va te prendre beaucoup de temps. Et je pense que quand de 4 mètres, on passera peut-être à 2 mètres. Ça correspondra à la phase aussi où tu vas faire un petit peu plus de travail collectif. Voilà.
Et pas de précision pour le vestiaire?
Alors attends, justement, si un joueur, précision importante, est contaminé dans le groupe au moment de la reprise de l'activité du club, isolement du joueur ou du membre du staff, gestion de la situation par le médecin du club, précisent les médecins, avant de rajouter qu'une mise en quatorzaine de toute l'équipe est nécessaire à partir de 3 joueurs nouvellement infectés. Voilà, donc 3 joueurs infectés, tout le groupe en quarantaine, staff médical, staff technique compris.
Donc au cas où, c'est ça le souci?
C'est ça. On le sait, c'est très fragile, Lionel.
Ben, bien sûr, mais ça veut dire que c'est tout le championnat qui doit s'arrêter.
En tout cas, alors, comme d'autres championnats ont prévu de le faire, notamment en Asie, si une équipe est infectée, c'est le cas, je crois, en Corée du Sud, pendant 2 semaines, cette équipe ne joue plus. Et elle récupérera ses matchs en retard. Non, mais les gars, c'est excusez-moi l'expression, c'est un bordel sans nom. Ça va être très compliqué. On le répète tous les soirs dans l'after. Là, il y a une intention, en tout cas, mise en place par l'asso des médecins des clubs français. C'est une note qu'ils rendent, que le gouvernement va sûrement étudier également, puisque je rappelle qu'à l'arrivée, au final, ce sera le gouvernement français qui décidera si oui ou non la compétition pourra reprendre. En tout cas, messieurs, nous sommes avec le président d'Amiens, qui est avec nous. Bernard Joannin, bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir président.
Bonsoir président. Merci d'être.
Ah non, arrêtez avec vos présidents. Hein.
Oui, vous avez raison. On va vous appeler Monsieur Joannin. Ça vous va?
Non, Bernard, c'est plus ça.
Ah Bernard, bah, très bien, allons-y. Bernard qui nous a dit avant l'émission, quel bonheur, j'adore Roland Courbis, j'adore le professionnalisme de Willy Sagnol et je vais découvrir Lionel Charbonnier que je connais pas très bien.
C'est la vérité. Je vais vous dire je vais vous l'argumenter parce que je suis pas là pour leur caresser le dos. Juste Roland a fait une carrière assez exceptionnelle. En tant que joueur, en tant qu'entraîneur, et il fait une carrière humoristique, déjà dans un premier temps, intéressante au niveau de son style de commentateur, et en plus, il est assez pertinent. Quant à Willy, sincèrement, je trouve que c'est quelqu'un qui a une grande rigueur dans ses analyses, et j'aime beaucoup. Malheureusement, je connais moins M. Charbonnier, et je vais apprendre à le connaître, voilà.
Eh ben, vous êtes avec nous pendant 10 minutes pour apprendre à connaître Lionel Charbonnier.
Et en tout cas, merci. On est très heureux de vous avoir et de discuter avec vous.
Alors, on vous a invité, Bernard Joannin, pour évoquer votre actualité à Amiens. Les joueurs et le staff d'Amiens ont été testés hier au coronavirus pour préparer une reprise de l'entraînement. Test PCR et prise de sang. Je précise que les résultats ne sont pas encore connus. Ils le seront lundi. D'abord, pourquoi avoir déjà testé vos joueurs?
Je pense que c'est toujours bien d'anticiper des choses, de prendre un peu d'avance, ce qui fait s'il y a un problème, on a plus de temps pour le régler.
Alors, comment vous avez organisé ça? Ça s'est fait au sein du club, racontez-nous.
Non, mais c'est très simple. Hein. Depuis le début de la saison, et ça depuis maintenant plus de 4 ans, on est suivi par un médecin biologiste de notre région qui fait... depuis 4 ans, des analyses de sang régulières avec nos joueurs. Je ne peux pas rentrer dans le détail parce que je ne suis pas médical. Je n'ai pas une culture médicale. Mais voilà, c'est une culture qu'on a acquise depuis 4 ans. Et il nous semblait naturel, au travers de ce laboratoire, d'anticiper les choses et de faire ces tests qui pourront faire un constat à l'heure actuelle, et s'il y a des cas qui s'avèrent positifs malheureusement, on pourra anticiper des choses.
D'accord, donc résultat lundi, hein, c'est bien ça.
Tout à fait.
On en saura plus lundi. Racontez-nous comment ça se passe, parce que c'est vrai que nous, comme tout, comme beaucoup, on est un peu ignare dans le domaine.
Ça se fera tous les combien, Nicolas ?
Bernard peut vous
répondre. Bernard ?
Oui ?
Ça se fera tous les combien, ces tests ?
Alors, là, vous interrogez quelqu'un qui est manager d'une entreprise et qui n'est pas médecin. Hein. Donc, je vais essayer, ouais. Je pense, avec tout le recul nécessaire à un néophyte. Je pense que là, c'est une prise de test.
Un état des lieux.
Un état des lieux, voilà, très bien, merci. Et puis, quand l'entraînement va reprendre, je suis assez d'accord, comme le fait l'Espagne, de prendre des tests tous les 4 jours.
Tous les 4 jours, des tests.
Voilà.
Dès lors que les joueurs ont retrouvé l'entraînement.
Voilà.
La question que je me pose également, c'est combien ça coûte ? Une question qui paraît un peu bête comme ça, mais c'est cher ou pas ?
Alors, je vais vous étonner parce que je ne connais pas réellement le coût. Quand les choses... Vous savez, j'ai l'habitude de travailler dans chaque domaine, de donner des délégations importantes à des managers qui gèrent les choses, dans les cadres de budget qu'ils ont au début d'année. Et ils sont, sans aucun doute, dans leur budget.
D'accord, donc c'est dans vos budgets. Voilà. Est-ce que vous savez si d'autres clubs l'ont fait également ? Déjà ?
J'ai plutôt l'habitude de m'occuper du ménage dans ma maison.
D'accord, très bien. j'ai encore une question à vous poser. Là, je viens de détailler le protocole de reprise mis en place par l'Association des médecins des clubs français. Est-ce que vous en avez connaissance ? Et qu'est-ce que vous en pensez ? Je rappelle, d'abord, phase 1 des tests médicaux, cardiaques, psychologiques, Covid-19, reprise d'un entraînement individuel pendant 7 jours, puis reprise par petits groupes, puis reprise d'un entraînement collectif le 29 mai.
J'ai la chance, si vous voulez, de faire partie du conseil d'administration de la Ligue, et j'ai eu l'occasion d'écouter attentivement au dernier conseil d'administration vendredi tout le programme et toute la ferveur que mettait dedans le professeur Roland, qui est vraiment le professeur adéquat pour la fédération dans ce domaine. Et j'ai plutôt l'impression que tout a été conçu dans le bon sens. Alors, les choses, je vous ai écouté attentivement aussi, les choses peuvent vous paraître extrêmes, mais je pense que l'écriture doit toujours être extrême. Et après, bien sûr, que les choses, en allant, vont progresser et s'améliorer. Mais vous ne pouvez pas demander à des spécialistes de la médecine de ne pas être extrêmes dans leurs recommandations au début.
Extrêmement prudent, c'est ce que vous voulez dire, effectivement. Quelle est votre position par rapport à une reprise de la Ligue 1, comme on le dit, le 17 juin par exemple ? Est-ce que c'est reprendre absolument pour vous ? Bon, je rappelle, parce que c'est intéressant de raconter l'intérêt des clubs particuliers. Vous êtes 19e de Ligue 1, donc vous avez, c'est vrai, vous, un intérêt particulier à reprendre le championnat.
Alors, écoutez, vous savez, c'est très compliqué pour moi de garder toujours la ligne que j'ai toujours voulu avoir dans le football, de réfléchir à l'intérêt général et de ne pas être partie prenante. Je pense que, vous savez d'où je viens du sport, j'ai vraiment une culture sport et les valeurs du sport sont pour moi essentielles. Et si on discute d'éthique sportive, comment peut-on concevoir un championnat où toutes les équipes ne se sont pas rencontrées? Ça, c'est un premier point.
Mm-hmm. Enfin, nous ne se sont pas rencontrés deux fois.
Deux fois.
Ils se sont rencontrés au moins une fois.
Voilà.
Mais un truc que je peux... Excusez-moi de vous couper. C'est que bon, on en parle suffisamment de ce championnat. Les équipes ont laissé de voir un petit peu leur qualité, leurs défauts. Mais la saison d'Amiens cette année, sincèrement, chaque fois que je vous vois jouer et qu'on vous voit jouer, on se demande pourquoi vous êtes 19e. C'est une saison où pour le moment, bon, il reste encore 10 matchs, où pour le moment, rien ne rigole. Donc, alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs cas de figure. Et c'est, ça serait logique que pour vous, le meilleur cas de figure, ce soit ben, qu'il n'y ait pas de descente, qu'il y ait une saison blanche. Et là-dessus, on comprend, nous, que chaque président voit l'intérêt de son club. C'est pas choquant du tout.
Je vais vous dire, et j'essaye, en toute honnêteté, puisque je suis administrateur, puisqu'ils m'ont noté administrateur du conseil d'administration, j'essaye de faire fi de mon rôle de président et de penser aux choses qui sont équitables. Donc, je vais terminer mon propos. Je vous ai parlé de l'équité sportive et je vous l'ai expliqué. Deuxième chose, arrêtons de nous cacher. Nous ne sommes pas des présidents d'un club sportif. Nous sommes directeur général ou président, comme vous voulez, d'une société de spectacle sportif. Nous sommes une PME avec des centaines de salariés derrière nous. Donc nous ne pouvons pas ignorer l'aspect économique du football.
Mais bien sûr.
C'est de l'hypocrisie. Donc bien sûr, et je le répète, et je l'ai toujours dit dans mes propos, la priorité dans cette histoire de pandémie, c'est surtout de préserver la sécurité, pas simplement que de nos joueurs, de nos dirigeants, de nos kinés, de nos médecins, qui vont être à l'approche des joueurs. Donc, bien sûr que c'est la priorité.
Mais Bernard, excusez-moi de vous couper. C'est, en fait, ce que vous nous dites, tout le monde l'entend sans aucun problème. Mais nous, en tant que spectateurs, ce qui nous embête un petit peu dans ce qui se passe à la ligue et dans le foot actuel, c'est que il y a toujours plusieurs sons de cloche. Il y a toujours un président qui, à un moment donné, sort un petit peu du bois et dit « moi, j'ai une idée » ou « moi, je voudrais faire ça ». Et je compare. Moi, j'aime beaucoup comparer avec les choses que je connais, donc notamment l'Allemagne, où il y a eu une réunion à la Ligue. Il y a 36 clubs professionnels. Ils ont tous décidé à l'unanimité qu'ils devaient finir le championnat. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de voix, on va dire, qui se sont manifestés pour d'autres solutions. Il y a aussi les questionnaires qui ont été envoyés à plus de 1000 joueurs, je crois que c'est 1100 ou 1200 joueurs pro. Et tout le monde a répondu, on reprend. Et depuis, en fait, maintenant, on est à la recherche de solutions. Ils sont en train de mettre en place tous les processus médicaux comme c'est arrivé aujourd'hui avec les médecins français. Moi, j'avais reçu aussi un pavé là de 40 et quelques pages de la même chose en Allemagne. Et je trouve que ça. Aujourd'hui, le gouvernement, enfin, moi, si je me mets à la, je veux pas me mettre à la place du gouvernement, pardon, mais on sait qu'aujourd'hui, il y a des choses prioritaires dans la vie. Le sport, ça n'en fait peut-être pas partie. Mais si à un moment donné, le gouvernement doit décider oui ou non pour une reprise, ça sera beaucoup plus difficile, je pense, de dire non, on ne reprend pas, si jamais il n'y a pas une forme d'unité de la part des acteurs du football, que ce soit joueurs, présidents, ligues. Alors que je pense que c'est quand même. En Allemagne, voilà, ça a été entendu. Le message a été entendu par le gouvernement.
Ouais, d'accord,
mais oui, Bernard.
Allez-y, Bernard Joannin.
Je vais vous dire, nous sommes français.
C'est vrai.
Et nous avons toujours cette volonté, depuis 1780, de toujours révolutionner les choses. Mais quand on nous demande d'aller à l'égard, on est présent. Je vais vous expliquer, bien sûr qu'il y a quelques présidents qui, des moments, disent des choses, etc. Mais ils ont tous voté, quand même, à l'unanimité, la reprise du championnat. Et si on part du syndicat des joueurs, et leur rôle est de défendre l'intégrité des joueurs. Et ils sont dans leur rôle quand Sylvain Kessendes intervient, etc. Ils sont dans leur rôle, il faut le comprendre.
Ouais, alors les joueurs majoritaires sont inquiets quand ils
ont des questions. Laissez-moi terminer.
Allez-y, Bernard Joannin, et après coach et Willy.
Et voilà, on devra. Mais quand on va leur demander de jouer, si nous on a fait notre job de les préserver, de les sécuriser, mais ils vont jouer. et les coachs vont être là. Vous savez, le français est comme ça. Il y a beaucoup d'effets de manche, mais à un moment, quand on demande à tous d'être unis, et on l'a vu dans ce confinement, qu'on n'aurait jamais pensé avant que les Français allaient faire. Ils l'ont fait. Oui. Avec une discipline incroyable.
Bernard Jeunin, je vais donner la parole à Lionel et après, vas-y Lionel.
Je pense que le souci, Bernard, il est pas trop là. Quand vous avez raison, quand il va falloir y aller, les joueurs ils vont y aller. Il y a pas de souci. Moi, ce qui me fait le plus peur par rapport à ça, c'est de dire on repart. Et quand je regarde, quand j'anticipe, parce que pour l'instant, moi, quand j'anticipe, c'est ce qui se passe en Italie et ce qui se passe en Chine. Et quand je vois que ça repart de plus belle, pareil, enfin pas de plus belle, mais que ça repart en Chine, qu'on arrête tout, qu'on confine des trucs, on risque de repartir. Là, on va faire revenir les joueurs pour 10-15 jours, et peut-être qu'on va leur dire, peut-être qu'il va y en avoir qui vont suite au test à la phase 1 ou la phase 2, on va se rendre compte qu'il y a des joueurs qui sont positif, et là on va leur dire ben maintenant rentrez chez vous, retournez. Moi je pense que le seul problème, il risque d'être là. Pour ce qui est des joueurs, tout ça, honnêtement, moi ça me fait pas peur. Je pense que quand il va falloir mettre le bleu de chauffe, ils le mettront, je suis d'accord avec vous.
Coach.
Justement, il y a un truc, on peut quand même tomber d'accord sur une chose, et pas perdre du temps chaque fois. On décide, mais on ne décide pas de reprendre. On souhaite reprendre, qu'on soit allemand ou pas allemand, qu'on soit français ou pas français, n'importe quel. Mais c'est acté.
On fait tout pour reprendre.
Mais si. Ce qui me fait dire que je ne suis pas choqué, je ne serai jamais choqué, si parallèlement à ça, on envisage une deuxième solution, si malheureusement on ne peut pas reprendre, qu'est-ce qu'on fait de ce championnat?
Exactement.
Je ne suis pas choqué du tout.
Allez-y, Bernard Jeunin.
Je vais répondre à Lionel. Son approche est légitime. Et après, je vais répondre à Roland. Concernant Lionel, votre approche, Lionel, est totalement légitime et le pire peut être à venir. Mais si dans la vie, on considère toujours le pire et qu'on n'avance jamais, on meurt. Et il n'y a rien de plus beau que la vie. Donc, si vous voulez, tentons cette expérience, allons au bout, mettons toutes les chances de notre côté, que ce soit la Liga, que ce soit... le championnat d'Italie.
Bernard Jeunin, je comprends votre raisonnement, mais si un de vos joueurs à Amiens dit, écoutez, président, je le sens pas. Je suis inquiet, je sais qu'on a pris les mesures, tout est fait pour, mais je le sens pas. Comment vous réagissez-vous?
Je pense que ça ne se fera pas, parce que je suis en vidéoconférence avec mes joueurs, je les ai vus par groupe de trois, en vidéo, pour discuter avec eux, pour savoir comment ils appréhendaient le chômage partiel, parce que je ne les ai jamais pris en traite. Le chômage partiel, je leur dis, voilà comment ça va être. Vous voyez, par exemple, l'UNFP a trouvé un accord pour ne pas payer 50% au mois d'avril. Je leur ai dit, attendez, on s'est mis d'accord sur le chômage partiel, qu'est-ce que ça va me faire de ne pas vous payer pendant un mois? Et puis vous le remboursez après, ça n'a pas de sens. Soit il y a une exonération qui est décidée ensemble, et pour l'instant, ce n'est pas encore le moment.
Oui.
Là, on est en chômage partiel, vous l'avez accepté, c'est bien, basta. Et là, pour la reprise, en vidéo, je leur ai dit, voilà, on va reprendre dans telles conditions. Vous pensez que s'ils sont venus au test, c'est parce qu'ils n'ont pas envie de reprendre?
Non, mais après,
ils ont envie de reprendre.
Après, la position des joueurs peut aussi évoluer. Et voilà. Oui, c'est des guerriers, mais bon, c'est des guerriers qui ont une famille. Et le sondage fait par l'UNFP révèle que beaucoup, une grande majorité, reste inquiète.
Nico, bien sûr. Mais c'est normal que les gens soient inquiets, que les joueurs soient inquiets, que les présidents soient inquiets, que les enfants soient inquiets. C'est normal. C'est quand même pas commun ce qui arrive actuellement. Moi, ce que je reproche, c'est. J'ai vu quelques questions qui ont été posées dans ce questionnaire. C'est ce qu'on appelle les questions question fermée. Tu réponds, mais t'as pas le choix.
Tu veux dire orienté, tu veux dire.
Voilà. Donc, bien sûr, moi, je crois pas qu'il y ait un joueur qui dira, moi, je veux pas y aller. Ça, j'y crois pas une seconde. Parce que si, à un moment donné, on décide d'y aller, c'est que tout a été fait en termes sanitaires pour pouvoir y aller. Et que de toute façon, que tu, à un moment donné, que tu ailles sur un terrain, courir avec deux trois autres mecs avec toi, t'auras pas plus de risque.
Il y aura quand même toujours un risque, Willy.
Voilà, t'auras, non mais c'est ça.
On sait que le risque zéro n'existera pas.
Il y aura pas plus.
Non, il y aura quand même toujours de risque. Il y aura quand même toujours un risque.
Mais oui, mais il y aura pas plus de risque que d'aller faire tes courses, que d'aller à un moment donné, tu vas pas rester ad vitam aeternam.
Mais oui, le truc,
mais d'accord, mais tu fais tes courses, tu fais tes courses. On te demande de mettre le masque, on te demande de mettre les gants. Tu vas pas jouer avec le masque et avec les gants. Donc il faudra vraiment que tout soit réuni pour reprendre.
Mais bien sûr.
Et après, même si tout est réuni, c'est encore pas gagné.
Et c'est ça. Ce qui m'interpelle, Willy, tu sais, c'est au niveau. Là, pour l'instant, les joueurs, Bernard, il a testé ses joueurs. Tout le monde, mettons, tout le monde va bien, il n'y a pas de souci et tout. Tout d'un coup, il y en a un qui vient et qui est positif. Comment ça se passe au niveau des assurances et tout ça, Bernard? Est-ce que vous êtes, est-ce que ce joueur qui va sortir du groupe, plus deux ou trois, qui peuvent être contaminés, ce sont les assurances qui vont prendre le relais, parce que ça veut dire qu'il aura pas, qu'il aura été infecté à la reprise. Au moins un, deux auraient été. Mais est-ce que le Covid, les assurances, elles te prennent? Moi, j'ai regardé
six semaines. Mais la loi en France, je crois que c'est les clubs payent 6 semaines. Donc,
allez-y, Bernard Joannin.
6 semaines non plus.
Moi, je pense que on se pose plein de questions et que on est dans quelque chose qui est totalement nouveau pour tous et qu'on apprend en marchant. Donc, on est là. Je crois qu'on doit être le 25 avril ou le 26. On a encore 15 jours avant ce début de déconfinement. Commençons déjà à attendre mardi la parole du Premier ministre. Voyons après le ministre des Sports dans quelle manière il va nous proposer un déconfinement pour nos sportifs. Sportifs du football, sportifs du basket, sportifs du handball. Et au travers de ça, on va déjà pouvoir mieux avancer. Je pense que c'est bien de se poser plein de questions. Mais ayons l'humilité de savoir qu'on avance presque les yeux fermés.
Oui.
Et que, à chaque pas, on va être obligé de dire peut-être ce qu'on vous a dit hier, c'était pas la vérité. Et qu'il faut changer.
Bernard Joannin, président d'Amiens, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, d'être venu dans l'after.
À bientôt.
Et je vous remercie. Merci Bernard, et puis
quoi qu'il se passe, bonne fin de saison.
Ouais, pour Amiens, 19e de Ligue 1, je vous le disais, avec 23 points, soit 4 points de retard sur le barragiste Nîmes. Voilà, messieurs, pour l'actualité ici en France, en tout cas concernant le football et le coronavirus. Tiens, petite info, je vous parlais de la Corée du Sud tout à l'heure, qui devrait être l'un des premiers championnats à reprendre dans le monde. Ce sera le 8 mai, ça s'appelle la K-League. Alors là, ils vont très loin, en 8 clos pour le moment pour tous les matchs. Mais surtout, mesure radicale, interdiction de se parler pendant le match entre coéquipiers, et y compris avec les adversaires, et y compris avec l'arbitre. Voilà.
Je croyais que tu allais
jouer, tu parles pas.
Autre chose.
Quoi,
tu penses à quoi? Non, il y a un problème avec le président.
Ah, c'est en Corée du Nord, c'est encore autre chose. Alors, en tout cas, en Corée du Sud, on pourra jouer, mais ne pas se parler. Ce qui va être très compliqué.
Et le mec qui fait une tête sur le. Qui dégage de la tête et qui l'autre prend aussi de la tête et tout, non, on n'y pense pas ça. C'est-à-dire sur le ballon.
Ah oui, avec les projections, tout ça, ouais. Les gouttelettes.
Alors, on peut pas se parler, on peut pas. Mais le ballon peut se le transmettre.
Mais voilà. C'est assez, mais c'est pour ça que ça n'a ni queue ni tête, c'est pour ça que je voulais donner l'info. voilà, non, on s'enchaîne jusqu'à minuit. Lionel Charbonnier, Willy Sagnol et Coach Courbis dans un instant, on sera avec Simone Rovera pour nous parler de l'Italie, bien sûr. À tout de suite.
RMC, l'Afterfoot, Nicolas Jamain.
Coach Courbis, Willy Sagnol, Lionel Charbonnier avec moi jusqu'à minuit, bien sûr. Je vous rappelle, appelez-nous au 32-16, vos réactions par rapport à ce protocole mis en place pour la reprise en Ligue 1, le hashtag RMC Live et l'application Direct Studio.
Nico, oui, dis-moi, Lionel. Juste comme ça, juste pour finir, j'espère franchement qu'on fera pas la connerie de la Corée, que si on autorise le foot, la reprise du foot en France, c'est parce qu'on pourra jouer un vrai football, au vrai football, on n'aura pas interdiction de faire ça, interdiction de faire ça, interdiction de faire ça. Il y a déjà assez d'interdits.
Mais j'ai compris ta position.
Non, mais c'est juste ça. J'espère Lionel, qu'on jouera un vrai football.
Tu vois ce que tu veux dire,
pas
ce que
parler,
tu t'imagines là-bas.
C'est pour ça.
Avec des nouvelles règles qu'il va falloir, si traite telle ou telle action. Est-ce qu'il avait bien le masque de mi devant?
Sur la position du masque également, pourquoi pas. Hors jeu du masque aussi, tu sais.
T'imagines si on peut pas parler sur le terrain, Verratti.
Mais c'est ça, c'est
parler
pas
à l'arbitre.
C'est horrible.
C'est le début d'une nouvelle ère, messieurs, t'imagines.
Avec le masque, tu peux insulter l'arbitre, ça qui te voit.
Mais t'as raison, mais alors est-ce qu'on joue avec un masque ou pas? Alors on en parlera tout à l'heure avec Paulo Breitner. L'idée a fait un peu de chemin en Allemagne également pour la reprise de la Bundesliga, des matchs avec des masques sur le visage, bien sûr. Mais d'abord, j'accueille Simone Rovera. Ciao, Simone.
Ciao, Wanser, bonsoir.
Ciao, Simone.
Et bienvenue dans l'After. Simone, on va être très transparent. On espérait avoir Sébastien Frey avec nous, qui vit en Italie. Je rappelle, gardien international français, Inter, Parme, Fiorentina surtout, le Genoa notamment. Mais on n'a pas de nouvelles. C'est bien dommage. Il voulait nous parler de sa vie de confiné en Italie et surtout de son activité sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a un phénomène en Italie, Simone, actuellement. C'est que quelques stars du foot italien, et pas que, ont pris d'assaut les réseaux sociaux et font des émissions en direct qui cartonnent littéralement.
Bah oui, des émissions incroyables, des lives Instagram. Sébastien Frey, c'est un des protagonistes, mais Sébastien Frey habite dans le sud de la France. C'est pas, oui. Il est souvent en Italie pour faire... il participait toujours à des émissions sur les chaînes italiennes de football. Mais aujourd'hui, quand on parle d'émissions, on parle d'autre chose. Alors, le conseil, l'idée, c'est un peu Christian Vier qui l'a lancé, c'est de faire des soirées live Instagram. Pendant le confinement, il y a beaucoup de acteurs du foot, des anciens joueurs mais aussi des joueurs actuels qui participent à des chats one-to-one, des appels vidéo sur Instagram avec donc plein de messages qui arrivent par les abonnés au compte des différents protagonistes. Et les rois, bien sûr, c'est Christian Vieri. Imaginez que Vieri crée vraiment une soirée avec une entrée en jeu, on peut dire, à 21h30, 22h. C'est toujours avec les mêmes anciens coéquipiers, Nicola Ventola, ex-attaquant de l'Inter, de la sélection italienne. Et après, il y a un grand invité. Ce soir, à 22h, c'était Roberto Mancini, pour vous dire. Après, oui. dans les autres soirées, il a fait Ronaldo, le brésilien, bien sûr, Totti, Filippo Inzaghi, Valentino Rossi, Zanetti, Maldini, Juan Sebastian Verón, Di Biagio, Crespo, Cassano. Bah Cassano actuellement en direct pour qui intéresse. Imaginez 2 millions d'abonnés Christian Vieri et environ quelques centaines de milliers les autres. Ça veut dire des soirées avec 30, 40 000, parfois 100 000 personnes en direct qui écoutent quoi? Bah, Christian Vieri et les autres qui parlent de leur passé.
C'est 100 000, c'est presque aussi bien parfois que certaines émissions à la radio en France, tu vois.
Comme le vestiaire de chez nous.
Voilà, ils sont en train de tuer notre métier, quoi, ces gars-là. c'est très sympa, en tout cas. Simone, raconte-nous des anecdotes, notamment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties sur Internet, notamment sur les réseaux. Je sais qu'en plus, Willy adore les réseaux sociaux, puisqu'il doit être connecté sur Instagram en permanence. Il y a des anecdotes savoureuses, notamment, dans ce que fait Vieri, notamment concernant Totti.
Bah oui, Totti qui parlait de son nouveau métier d'être papa. Il parle de sa façon d'accompagner son fils à Trigoria, donc au centre d'entraînement de la Rome, en voiture, mais avec les froids qu'il y a avec ses nouveaux dirigeants de la Rome. Il dit dans cette directe qu'il reste dehors. Il reste dehors et parfois ça lui met envie de pleurer. Donc il se sent un peu obligé à rester dehors de ce qu'a été sa maison.
Ouais, il a trop peur de revoir son ex en fait, dont il est encore amoureux, c'est ça.
Il n'a pas envie de revoir son président, on dirait, de l'actuel président, ces personnes qui l'ont mis à la porte. Et ça, c'est un peu les côtés plus intéressants, des phrases quand même des joueurs qui entre amis, s'aimer. À dire la vérité sur leur passé. Il y a quelques jours, Filippo Inzaghi racontait cette anecdote que pendant un match à Reggio Calabria, à Italie-Azerbaïdjan, il y avait comme trio devant, imaginez Vieri, Inzaghi et Totti numéro 10, et à la mi-temps, À la mi-temps, Inzaghi sort de la toilette, va voir Trapattoni, parce qu'il savait que Trapattoni devait les remplacer. Il sentait que les premiers remplacements entre Inzaghi et Vieri auraient été Inzaghi. Donc, il va voir Trapattoni et lui dit, ah, tu sais, je viens de parler à Bobo, il a un souci à l'adducteur. Et après 15 minutes de la deuxième mi-temps, Trapattoni fait sortir Vieri, qui s'énerve, qui pète un câble. Il va voir Trapattoni et Trapattoni dit, bah, écoute, Inzaghi vient de me dire que t'es blessé. Et c'était pas vrai. Et c'était parce qu'Inzaghi voulait marquer plus de lui, sur ces matchs-là. Il avait des record à battre, et à la fin de la directe Instagram, Inzaghi lui rappelle, tu te souviens, ben, j'ai quand même mis un doublé moi ce soir, toi non. Donc des anecdotes qu'on savait pas, et aujourd'hui les joueurs de football s'aiment à raconter leur histoire.
Mais oui, c'est parce que bon, ils arrivent à obtenir ce que nous on a du mal à obtenir finalement, messieurs. C'est vrai que bon, un footballeur fait plus confiance à un collègue ou un confrère qu'un journaliste en général. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais bon,
je sais pas si vous faites métier. Tout à l'heure, chez nous, ça
comme
ressemble
le vestiaire.
Tu as
fait le même principe, effectivement.
Et c'est vrai que quand tu te retrouves dans le contexte du vestiaire, il te viennent des souvenirs et tu es un petit peu prisonnier des discussions et c'est vrai qu'on apprend dans cette émission des choses qu'on n'était pas au courant.
Le seul truc, c'est que les mecs peuvent échanger, tu vois, c'est pas un mec qui raconte devant tout le monde sans que l'autre soit à ses côtés. C'est-à-dire qu'ils échangent et c'est plus franc comme jeu. C'est pas un mec qui a parlé dans le dos ou quoi, ils peuvent se répondre et tout, et c'est là que ça devient intéressant, c'est cette interactivité et c'est ce dialogue qui se fait devant tout le monde.
Et sur les 30, 40 000 personnes, voire 100 000 qui sont en direct, bien sûr, si vous connaissez Instagram, les principes, quand même, il y a tout le monde qui envoie des messages, il y a plein d'interactions. Et souvent, c'est des autres footballeurs. Imaginez que pendant une discussion, si je me souviens bien, c'était entre Totti et Luca Toni, Instagram, c'est Mario Balotelli qui est arrivé pour rappeler à Totti les jours où il a été expulsé pour en faute sur Balotelli, une finale de Coupe d'Italie. Elle dit, tu sais que parfois j'ai encore mal à la jambe. Et ça provoque aussi la réaction des acteurs du foot, parce que quand même t'as des grands quand même noms de football qui interviennent. Imaginez, il y a eu une directe qui a fait des dizaines de milliers de spectateurs entre Paolo Dybala et Alessandro Del Piero. Imaginez les supporters de la Juve de voir des anciennes, un ancien numéro 10, l'ancien capitaine qui parle avec son héritier et donc ça crée vraiment une façon différente de passer les soirées, parce qu'après t'as des gens qui passent la soirée sur internet sur les réseaux sociaux. Oui. Je disais, Vieri commence à 22h, commence la dernière directe à minuit avec Daniele Adani, ancien joueur de l'Inter de la Fiorentina, qui aujourd'hui est un consultant très apprécié en Italie. Et il continue jusqu'à 1h du matin. Moi, un soir, je suis allé dormir à 1h30. Je suis resté jusqu'à la fin de la chat. Il y avait encore 24 000 personnes.
Et oui,
24
écoute,
000 personnes. En tout cas, oui.
J'allais dire, en tout cas, voilà. Moi, j'attends que Willy crée son compte Instagram et qu'il nous fasse un live Instagram avec Oliver Kahn. Tu vois, moi, je le regarde.
Et je vous dis, Sébastien Frey, dommage qu'il n'est pas là, parce que quand même, avec son passé dans grand club, Inter, Fiorentina, Parme, il a fait plein de lives en Italie avec ses anciens coéquipiers, Materazzi, Jovetic, Gilardino, Osvaldo, Luca Toni, et pouvait nous raconter bien comment ça marche et pourquoi ça marche si bien. En Italie, c'est vraiment intéressant. Il y a plein d'émissions aussi qui font de live. Il y a une chaîne dédiée que à la Juve qui a fait dans les dernières semaines Marcello Lippi, Montero, Ferrara, Carrera, Marchisio, tout qui parle sur les réseaux sociaux. Il y a vraiment des milliers et des milliers des supporters de football qui n'ont pas la possibilité de voir des matchs.
Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il raconte, il écoute les anecdotes.
C'est un palliatif, en tout cas, voilà. Quand il n'y a plus de match, on écoute l'histoire. C'est un peu ce qu'on fait dans l'after aussi, de temps en temps, quasiment tous les soirs ensemble avec Willy, Lionel et coach. Simone, parlons mercato, parce que bon, il y a des gros dossiers en ce moment en Italie.
Bah, il y a deux gros dossiers, hein. C'est très très grand, parce qu'il s'appelle Zlatan Ibrahimovic. Imaginez, les championnats sont arrêtés, donc on se demande un peu qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Zlatan Ibrahimovic a le contrat qui expire à la fin de la saison, quand même. Il y a une option derrière pour les Milan, pour les prolongé. Et comme les choses s'est passé plutôt bien sur la période où il a joué, quand même Milan faisait des bons résultats, il y a un gros point d'interrogation parce que Zlatan voudrait continuer. Les Milan aujourd'hui commencent à projeter sur un avenir avec beaucoup de jeunes, encore plus de jeunes et des joueurs quand même peut-être moins connus, mais avec un potentiel très intéressant. On parle beaucoup d'un potentiel arrivé de Ragnick comme entraîneur, l'homme qui a fait des grandes choses en Allemagne, avec un rôle de directeur sportif et entraîneur. Donc on se demande presque au quotidien, dans tous les journaux italiens, qu'est-ce que c'est l'avenir de Zlatan et si Milan doit faire un effort au niveau économique et sur sa politique sportive pour les garder. Apparemment, Zlatan veut rester à Milan. Ah. Mais c'est Milan qui n'est pas convaincu à 100% de garder un joueur qui va faire 38 ans et qui quand même n'est plus l'homme sur lequel on peut compter sur un avenir quand on fait une équipe de jeunes de 19, 20, 25 ans.
Ouais, d'accord, mais bon, tu peux pas non plus mettre que des jeunes de 19, 20. Un ancien dans certains secteurs, c'est pas mal aussi.
Oui, puis surtout quand c'est Ibrahimovic quand même, qui peut un peu t'apporter et cadrer un peu le vestiaire. Simone, on parle également en Italie de Mauro Icardi.
Tu crois qu'il cadre le vestiaire? Je suis pas sûr.
Non, mais c'est un leader quand même, Ibra, non?
Enfin... Ouais, peut-être pas dans le bon sens.
Ah. Donc pour toi, Zlatan, à Milan, merci, au revoir.
Moi, oui. Voilà. Oui, oui. Ouais, c'est bon.
Mauro Icardi également fait l'actualité chez toi, Simone.
Bah, Mauro Icardi fait énormément l'actualité. On sait très bien que quand même Paris doit choisir qu'est-ce qu'il faire de cet attaquant, s'il payer l'option, donc faire en sorte qu'il devienne à titre définitif un joueur du Paris Saint-Germain. Mais la Juve a un gros souci qui concerne Gonzalo Higuaín, qui est parti en Argentine, comme plusieurs joueurs sont répartis dans ces périodes de confinement, à la maison dans leur pays d'origine. Et selon les informations que plusieurs médias ont recueillies et que je peux confirmer, actuellement, n'aurait pas envie, ne serait pas intéressé, ne voudrait pas quand même rentrer, soit pour rester à côté de sa mère gravement malade en Argentine, une des raisons pour lesquelles elle est partie, mais aujourd'hui, ça sort cette indiscrétion sur le fait qu'il se sente un peu trahi par la Juve, qui a déjà cherché de commencer des contacts avec le club pour les vendre cet été, vu qu'il a encore un année de contrat. Et comme il se sent un peu trahi par la Juve, il cherche de traîner un peu les jeux en restant en Argentine. Et bien sûr, si la Juve doit commencer à chercher un attaquant, elle pense à celui qui, depuis des années, voudrait aller à la Juve et la Juve voudrait le récupérer, qui est Mauro Icardi. Et donc, l'idée racontée dans plusieurs médias italiens, c'est d'un possible échange avec une somme d'argent qui arrive aussi au PSG, avec où Pjanic fait les trajets Turin-Paris en TGV, et dans l'autre TGV, il y a Mauro Icardi qui arrive à Turin.
Je sollicite messieurs, Willy par exemple, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que le PSG doit absolument lever l'option d'achat de Mauro Icardi sur ce que tu as vu cette saison au PSG?
Non.
Non.
Non. Alors j'ai été, comme beaucoup, j'ai été emballé par son efficacité. Surtout voilà, la période octobre-novembre. Mais il a confirmé une chose, c'est que c'est vraiment un joueur de surface. Le reste du temps, tu le vois pas. Il est et je suis pas sûr que. Autant au début, je me disais, voilà, un joueur de surface, un mec qui va fixer, ça va profiter à Mbappé, ça va profiter à Neymar. Mais finalement. Un attaquant, il doit quand même être beaucoup plus mobile. Et moi, je trouve qu'il manque de mobilité. Après, c'est toujours pareil. Est-ce qu'il doit rester, est-ce qu'il doit pas rester? C'est toute une question de prix. Si demain vous l'avez à un bon tarif, oui, ça peut être un joueur qui va peut-être rentrer dans la rotation. Si Cavani, peut-être, j'ai entendu dire peut-être qu'il voulait rester aussi.
Oui. 70 millions d'euros, hein, l'option d'achat à lever, hein, pour le PSG.
C'est énorme.
Je trouve que ça fait beaucoup.
C'est énorme, d'autant plus.
Oui, ce qu'il y a Simon disait, c'est presque cadeau, hein, quand il enchaînait les buts.
Moi,
je trouve
que c'est pas cher. Ben oui, exactement.
Non, moi, je trouve, je sais pas ce que tu en penses, Simon, et il est retombé cette année avec le PSG dans les travers de ce qu'il a connu l'année dernière en Italie. Les raisons qui ont fait pour laquelle il est parti aussi, il se sentait mal et on a commencé aussi à entendre les mêmes phrases que de son agent, femme agent, Moi, je m'attendais à ce que le bordel commence comme, enfin exactement le même bordel qu'il y avait eu en Italie, et que ça le fasse au PSG. Et donc, un joueur comme ça, avec un agent comme ça, franchement, le PSG, pour moi, n'en a pas besoin. Basta, il est retombé dans ses travers, et ça sera toujours comme ça, j'ai l'impression.
Cette année, quand même. Son agent, il part très peu, c'est-à-dire en rapport à l'année dernière.
Non, mais elle a commencé, dès qu'il n'a pas fait trois matchs, ça y est, elle a commencé. Ouais, mais
on parle uniquement, est-ce que le Paris Saint-Germain doit garder Icardi?
Je dis non.
Mais pour moi, la question plus importante pour moi, c'est est-ce que Icardi veut rester?
Non, depuis le début, il est venu en France pour se refaire la cerise, pour retourner, Simone.
J'ai l'impression qu'après quelques mois au PSG...
T'as pas compris ma question. Là, on parle, est-ce que Paris Saint-Germain doit lever l'option? Donc, on a répondu, mais moi, je dis, la question que l'on doit se poser avant, est-ce que lui veut rester? Si lui ne veut pas rester, ils peuvent lever l'option, le Paris Saint-Germain, il ne peut pas rester.
C'est pour ça que je te dis non.
Mais ce garçon m'a l'air un peu lunatique, parce que fin 2019, il est bien au PSG, sa femme le dit, parce qu'il enchaîne les buts, tout va bien, il est titulaire devant Cavani, ça tourne moins bien pour lui en 2020. Il y a des envies de départ, en tout cas. C'est ça, Simone.
Je pense que depuis les débuts, j'ai dit que pour moi, Ricard, venir à Paris, c'était un peu solution dernière minute pour sauver sa saison. Sinon, il aurait fait une saison blanche à l'Inter pour des raisons.
Exactement.
On dirait même pas personnelles, des choix du club et de l'entraîneur. Il vient à Paris, il n'est pas totalement heureux de venir à Paris. Il vit à Paris toute seule, sa famille reste à Milan. Voilà. Et il a deux enfants avec Vandana, qui a aussi les trois enfants de Maxi Lopez. Donc, c'est une grande famille avec cinq enfants. Et lui, il ne peut pas les voir si souvent comme il voudrait. C'est pas l'homme pour moi le plus heureux du monde, mais c'est très bien dans les vestiaires, ça je peux le dire sans souci. Après, la question, il y a 40 jours avant la crise économique, sportive, mondiale liée au coronavirus, 65 ou 70 millions pour un joueur comme Mauro Icardi, qui marque quand même 20 buts en 30 matchs cette saison, aurait été presque un cadeau pour moi. Maintenant, avec tous les prix qui vont tomber, une option à 70 millions, ça reste quand même peut-être un peu plus cher de ce que pouvait être il y a deux mois et demi, quand Paris aurait pu tranquillement lever l'option et après voir de faire quelques opérations avec Icardi, si vous voulez pas rester, avec l'Atlético Madrid qui est très intéressé, avec la Juve qui est très intéressé, ou avec d'autres clubs.
Et j'insiste chaque fois sur une chose, je suis désolé. Ok, 70 millions, c'est le transfert de club à club. Et ses conditions à lui, la durée de son contrat, on le sait pas. Donc, on ne sait
que la moitié des choses. Non, mais ça, sont déjà négociés avec Paris dans ses contrats. Ça a déjà été négocié en cas quand Marouan était transféré.
Oui, mais justement, pour savoir si c'est vraiment une bonne affaire par rapport à rapport qualité-prix, il faut savoir aussi la durée de son contrat, son âge et le montant de ses salaires.
Oui, et puis coach, je peux me permettre, 70 millions d'euros dans le contexte actuel, c'est peut-être beaucoup plus que ce que ça vaut, ce que ça valait. Il y a quelques mois, tu vois.
Absolument.
Peut-être absolument. Au-delà des montants, je pense qu'il y a, une analyse aussi qui est faite à Paris, qui a été faite au PSG. Ce qui a manqué au PSG sur les dernières saisons, ce qui a fait qu'à chaque fois il y a eu des accidents en huitième ou en quart de Ligue des Champions, c'est parce qu'à un moment donné, on disait ça manquait de caractère. Ça manquait de caractère, de mecs durs au mal qui vont se battre. Et le problème d'Icardi, c'est que, alors oui, il a été efficace, mais on sent pas un mec qui va au mastic. On sent pas un mec qui, quand l'équipe est en difficulté, veut absolument la sortir, aller mettre un tacle sur le côté comme peut faire un Cavani pour réveiller tout le monde. Et je pense qu'il y a ça aussi, c'est son langage corporel sur un terrain. Il amène des doutes. Il amène des doutes. Alors, que ça soit un très bon joueur, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que c'est un joueur efficace. Mais est-ce que le PSG, par rapport à son ADN, par rapport aux joueurs qu'il a autour, est-ce que c'est vraiment le profil qu'il faut? Moi, comme je dis, j'ai des doutes. Voilà.
Difficile à dire, mais que Leonardo soit suffisamment malin pour se servir de ce joueur et récupérer un joueur intéressant de la Juve, si vraiment la Juve le veut, ça, je fais confiance à Léo.
Merci, Simone.
Ciao.
Excellente soirée à toi. Ciao, très vite dans l'after. Ciao. Bien sûr, dans un instant, on sera avec Paulo Breitner pour évoquer la Bundesliga, la Bully. Comment on l'appelle là-bas? Il va nous parler des conditions de reprise. L'Allemagne est-il encore le bon élève européen pour une reprise d'un championnat? On en parle avec Paulo tout de suite.
RMC. L'Afterfoot. Nicolas Jamain.
Coach Courbis, Lionel Charbonnier et Willy Sagnol. Jusqu'à minuit dans l'After, bien sûr. Je vous rappelle le programme à partir de 23h. Nous irons en Angleterre retrouver Julien Laurence qui nous parlera de son championnat évidemment, les propositions pour une reprise et Mercato nous parlera de Thomas Meunier que José Mourinho veut absolument à Tottenham, il l'a fait savoir et puis Chelsea qui aime beaucoup Pierre-Emerick Aubameyang, on en parlera avec lui, avec Julien Laurence dans un instant. Mais d'abord j'accueille messieurs Paulo Breitner, salut Paulo.
Bonsoir mon cher Nicolas, bonsoir tout le monde.
Salut Paulo.
Et bienvenue dans la
série. Servus Paulo.
Voilà. On va vous laisser, messieurs.
Rappelons que Zervus est quand même utilisé uniquement en Bavière. Moin Moin.
Et alors, Moin, ça c'est à Brême aussi. Moin Moin.
Ouais. Mais la Bavière, moin, moin à Brême aussi. Polo, la Bavière est en Allemagne, on est d'accord?
Pas selon Bismarck.
D'accord, on l'a remonté très loin. Polo, oui. Comment va le bon élève européen, en tout cas celui qui a des vraies intentions de reprendre en premier?
Bah, disons qu'on est, si on regarde le monde professionnel du football allemand qui s'auto-congratule beaucoup en ce moment, on a le sentiment que tout est prêt pour recommencer début mai la Bundesliga et la seconde division. Si on regarde un petit peu les personnes extérieures au football allemand, on a quand même le sentiment que ce secteur d'activité fonctionne un petit peu en vase clos et n'est pas du tout mis sur le même plan que l'ensemble de la population. Donc c'est deux visions très différentes. Ce qui est sûr, c'est qu'encore une fois, il n'y a aucune décision qui a été prise, rappelons-le. C'est-à-dire qu'il y a une quinzaine de jours, on en parlait, tout était spéculatif et aujourd'hui, c'est toujours très très spéculatif. C'est-à-dire que la Ligue allemande de football a décidé ou a en tout cas dit qu'elle était prête à recommencer le 9 mai, si évidemment les autorisations politiques et sanitaires étaient là. Ils ont fait un plan qu'ils ont proposé. Alors c'est assez extraordinaire parce que c'est très administratif en plus. Il y a un nombre de personnes exactement au stade. Alors ceux qui doivent être sur le terrain, ceux qui peuvent être dans les tribunes, ceux qui doivent être autour du stade et tout ça. Alors c'est très très bien fait, ça reste très théorique et honnêtement la date du 9 mai est une date fixée comme ça, mais très peu de personnes, y compris à l'intérieur du foot allemand, pensent que c'est possible.
Alors ça fait beaucoup réagir, y compris en France, l'idée de jouer avec des masques ces matchs.
Alors ça fait rigoler beaucoup de personnes.
C'est une vraie intention ou c'est une piste ça à lancer?
Non mais en fait le problème c'est que c'est une proposition politique. Donc des personnes qui sont pas
des spécialistes. Moi je pensais que c'était une plaisanterie.
Non, mais en fait, c'est si tu veux, ça fait partie notamment de ces mesures qui ont été demandées, etc. Alors c'est complètement fou parce qu'en fait alors évidemment par exemple je vais revenir sur les masques, mais vous avez chaque joueur devra avoir sa bouteille d'eau individualisée, devra avoir son repas individualisé ou tout préparé etc. Enfin c'est tout un cérémonial à mettre en place. On se demande d'ailleurs comment est-ce qu'ils vont jouer au football. Mais la question en fait du masque, c'est qu'au départ c'est une proposition politique, c'est pas du tout une proposition sportive, et c'est aussi certains médecins ou des virologues qui ont proposé ça pour le monde du football. Le problème, c'est que le monde du football se demande comment est-ce que c'est possible de mettre ça en place pour des joueurs qui vont courir pendant 90 minutes.
Après, tu fais des masques adaptés à l'effort sportif, ça peut exister.
Bah peut-être, mais en tout cas par exemple là je pense à Uwe Rösler, le patron du Fortuna Düsseldorf, le coach du Fortuna Düsseldorf, qui lui il voit pas du tout comment est-ce qu'il peut y arriver à ce que les joueurs puissent jouer pendant 90 minutes comme ça. Donc ça fait même un peu rigoler parce qu'on a l'impression qu'il y a du marketing aussi, parce qu'on envisage des masques à la couleur des clubs évidemment. Donc ça serait des choses, ça serait assez sympa, donc ça serait comme histoire, je pense, dans quelques années
à la marque de l'équipe Manti aussi. Non.
Ah bah ça, il n'y a pas de petites économies.
Ouais. Et le masque à probande.
Voilà, c'est ça. Et en fait, c'est un peu bizarre cette histoire parce que personne ne comprend vraiment ce qui va se passer. Bon, n'oublions pas que même si ça reprend, ça sera complètement tronqué. Ce qui est sûr, et moi c'est ce qui me déplaît un petit peu, c'est quand même le monde du football professionnel se regarde un peu le nombril. Il y a un forcing, il y a un lobbying des patrons de clubs pour reprendre la Bundesliga, aidé aussi par les présidents de région. N'oublions pas, Willy connaît très bien le rapport très particulier que peut avoir le Bayern Munich avec les responsables politiques en local en Bavière. C'est des déclarations qui sont assez impressionnantes. Et puis dans l'autre cas, vous avez d'autres présidents de régions. Donc je parle là de politique, hein, monsieur Ramelot par exemple en Thuringe, qui dit qu'on pourra jamais reprendre le 9 mai. Le problème c'est qu'en Thuringe, il y a pas de club de première division ni de seconde division. Donc mais il s'exprime quand même. Donc c'est des choses comme ça qui se passent. Chacun raconte un peu sa vie, mais bon, il y a pas vraiment de... Le plan est prêt en tout cas. Officiellement la
mais tout le monde a un plan, c'est sûr.
Tout le monde a un plan. Il dit, nous, on attend l'autorisation, on peut commencer, etc. Ensuite, il y a quand même des articles qui sortent en disant la santé des joueurs, moyen, quand même.
Ouais. Le 9 mai, attends, ou alors je n'ai pas bien compris. Le 9 mai, on envisage le championnat.
La reprise du championnat, un petit qu'on s'entraîne déjà en Allemagne, coach. Journée.
Juste les footeux. C'est le contraire de nous, l'Apollo, c'est ça.
Là, qu'on est en manque de pronostics, puisqu'il n'y a plus de matchs. Mais on peut faire des paris là quand même sur ce...
Ah vas-y, coach, c'est quoi la cote sur la reprise de Bundesliga le 9 mai?
La cote, mais il n'y en a pas, c'est impossible.
Donc, justement, Roland, ça fait un petit moment qu'ils ont recommencé des entraînements, ouais. Déjà.
Exactement. Roland, hein. Mais oui, c'est même un modèle pour le protocole en France.
Je comprends ce que tu veux dire, mais de là à reprendre le 9 mai, tu me dirais qu'ils ont envisagé de reprendre... Fin mai, 25 mai, ok, mais le 9 mai, c'est-à-dire quoi, même pas 15 jours?
C'est ça, voilà, dans 15 jours, exactement.
Et Polo, comment ça se passe, Polo, en Allemagne, pour la vie de tous les jours? Il y a un déconfinement qui a été...
Alors depuis une semaine, il y a un début de déconfinement, c'est-à-dire qu'on a autorisé les magasins de moins 800 mètres carrés à ouvrir. Par contre, les personnes ne peuvent pas se déplacer, enfin se trouver à plus de deux. Ils doivent toujours avoir des
donc il y a un régime spécial pour les footeux.
Bah en fait, c'est ce qui ressort aussi après.
Les footeux se font leur régime spécial.
Bah oui, un petit peu, c'est-à-dire qu'il y a, on dit, mais comment se fait-il que eux ont le droit de s'entraîner, voilà, alors que par exemple les stades publics, etc., sont fermés justement au public? Pourquoi est-ce que... Donc il y a, c'est ça un petit peu qui est important.
C'est le football qui guide, et c'est le contraire de chez nous. C'est-à-dire que nous, on attend, on en parlait tout à l'heure avec Bernard, le président d'Amiens, qui disait, nous, on attend que le gouvernement, ce que va dire le Premier ministre et tout ça, alors que là, les footballeurs disent, nous, on est prêts, on est bien, on n'a pas besoin d'attendre que le gouvernement nous donne des feux verts.
Ils sont en attente du feu vert gouvernemental.
Oui, mais sans s'occuper du confinement, des confinements.
Mais sans s'occuper forcément du confinement, il y a des cas particuliers. Il y a des entraînements d'ailleurs qui ont fait un petit peu polémique, notamment au Fortuna Düsseldorf, puisque officiellement les contacts n'étaient pas autorisés et les mecs qui se mettaient des tampons à l'entraînement. Donc c'était assez intéressant, d'autant plus que. Mais c'est pas étrange, c'est pas étonnant parce que le Fortuna Düsseldorf est un club qui est en difficulté. Ils sont barragistes en ce moment et comme évidemment on ne sait pas dans quel état, parce que c'est un nouveau championnat qui va recommencer, si ça recommence le 9 mai ou même fin mai, on ne sait pas du tout dans quel état physique vont être les joueurs, c'est comme tous les débuts de saison, et le Fortuna Düsseldorf fait tout pour être le plus près possible. Évidemment, donc c'est pour ça que ça se passe comme ça. Et puis je parle même pas du juridique de certains joueurs qui regardent, qui sont par exemple, parce que ce qu'on oublie aussi dans ces discussions, c'est que un club qui aujourd'hui est en position de barragiste, eh ben il aimerait bien que le championnat s'arrête tout de suite et qu'on passe à 20 clubs l'année prochaine et pas à 18, parce qu'il serait sûr d'être sauvé. Là, un cas comme le Werder de Brême ou même Paderborn, qui est encore plus compliqué, ils ont quasiment, ils ont en tout cas bien la tête sous l'eau. Donc eux, recommencer le championnat quand même, juridiquement, je sais qu'en ce moment, ça, les avocats, ça travaille.
Eh bien voilà, c'est complet. Merci Polo.
Merci beaucoup.
Excellente soirée à toi. On est ensemble jusqu'à minuit, coach Courbis.
Il y a beaucoup d'autres choses qu'on n'a pas parlé sur le championnat allemand, sur la reprise.
Dis-moi.
Tu vois, par exemple, eux, ils ont décidé, si jamais il y a reprise, ils feront tester, par exemple, les joueurs tous les 3 jours. Alors tu vois, sur une dizaine de semaines de compétition, on sait que ça va représenter à peu près 20 000 tests sérologiques. Ouais. Alors il y a déjà un peu en Allemagne qui disent oui, mais pourquoi les joueurs ils ont droit, pourquoi les autres ils ont pas droit.
Il y a des polémiques.
Alors il faut savoir, oui, mais il faut savoir quand même que de tester le monde du foot pendant toute la durée jusqu'à la fin de l'année, ça va représenter à peu près 0,3% de tous les tests sérologiques en Allemagne. Donc c'est pas une grosse somme, surtout que aujourd'hui la Bundesliga, tu sais quand même que la Bundesliga aujourd'hui en termes d'emploi génère autant, oui, que deux tiers des entreprises du DAX. Donc l'équivalent du 440 en Allemagne. Donc c'est aussi un problème économique pour le pays. Et aussi, il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a 36 clubs pro sur les 36. Si jamais la saison ne reprend pas et donc il y aura beaucoup de manque à gagner, il y a environ 13 clubs qui risquent de mettre la clé sous la porte.
Exactement, ah, ce sera un dépôt de bilan. Merci pour ta précision, Willy, elle était nécessaire. Nous, on est là jusqu'à minuit, bien sûr, ensemble. Dans un instant, on va en Angleterre. On nous attend Julien Laurence. Et puis, notre débat, qui est pour vous le meilleur joueur de la décennie 2010. À tout de suite.
RMC jusqu'à minuit.
L'After Foot.